Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Les Français accélèrent à Tokyo. 5 nouvelles médailles ce matin. 2 d'argent en planche à voile, 1 en bronze en triathlon, 1 autre en argent pour l'équipe féminine de rugby à 7. Et puis à l'instant, cerise sur le gâteau, on peut dire une formidable médaille d'or, Isabelle Langer, pour l'équipe de France mixte de judo.
Mais quel bonheur, Philippe, cette équipe de France de judo mix. Clarissa Gbenienou, Axel Clerget, Roman Dico, Teddy Riner, Sarah Léonie Sizik et Guillaume Chen qui vont monter dans un instant sur la plus haute marche du podium. Ils ont battu le Japon à domicile. Vous vous rendez compte dans ce temple du judo ici au Nippon Budokan. Allez, on y revient dans un instant.
Formidable, on partage votre joie évidemment Isabelle et tous ceux qui aiment le judo français. La journée la plus chargée de l'année sur les routes de France, c'est noir dans le sens des départs. Comme prévu, beaucoup de bouchons. On fera un point sur votre circulation dans un instant. On ira faire un petit détour sur l'une des plus grandes aires d'autoroute, Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme. Et puis, on a une petite pensée également pour ceux qui rentrent déjà. C'est terminé. À part dans le sud-est pour les juilletistes, ça n'a pas été la joie côté météo en juillet. Dans ce journal également, le point sur l'alerte enlèvement lancée ce matin. Un petit garçon de 8 ans enlevé par son père à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Leur voiture a été retrouvée quelques kilomètres plus loin. Guillaume Chiez vous donnera les dernières infos. Immense tristesse aux Antilles après la mort du guitariste du groupe Kassav, Jacob Desvarieux. Il avait 65 ans. Il a été emporté par le Covid. Dans ce journal, réaction exclusive et tristesse, bien sûr, de la chanteuse du groupe Jocelyne Berroir. Elle n'imagine pas Kassav sans lui. À 1h moins le quart, l'invité de ce journal sera le maire d'Illion, dans les Côtes d'Armor. Sa commune est l'une des plus touchées par les algues vertes. En pleine saison, plusieurs plages ont dû être fermées. Il lance un appel à l'aide au président Macron. Et puis votre chronique d'été à 1h moins 5. Christophe Bourreau vous emmènera à redécouvrir nos plus belles routes des vacances. Aujourd'hui, la Nationale 10 en direction du Sud-Ouest et de l'Espagne. Le temps, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Toujours du soleil dans le Sud-Est. Plus au nord, il y a intérêt d'en profiter parce que ce soleil, ça ne va pas durer.
Oui, c'est vrai qu'on a eu de très belles périodes de soleil et on en a encore dans le Grand Est, en région parisienne ou encore dans les régions centrales. Mais les averses vont nous rattraper de toute façon au fil de l'après-midi. Pour autant, ce ne sera pas totalement pourri. On ne va pas avoir un ciel parfaitement plombé. On peut quand même avoir quelques lueurs entre deux rincées. En revanche, on a des pluies orageuses qui circulent déjà depuis ce matin dans le Sud-Ouest et qui se dirigent vers le Massif central qui vont gagner les Alpes. Et c'est vraiment dans cette partie-là que ce sera le plus orageux cet après-midi. Et vous l'avez dit, près de la Méditerranée, là tout va bien. Le soleil va se maintenir, notamment près des côtes. Les températures cet après-midi, ça pèse un petit peu par endroits. 20 degrés seulement à Montauban, 21 pour Amiens, 23 degrés à Paris et Mâcon. Il fera 24 à Annecy, 30 à Montpellier et encore 32 à Marseille.
Merci Valérie.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
Allez, tout de suite, vos conditions de circulation en ce jour de chasse et croisée. Bonjour Louis Augry.
Bonjour.
Comme prévu, c'est très chargé, en particulier dans la vallée du Rhône.
Oui, alors globalement, c'est sur la plupart des routes de France que vous roulez au ralenti. Presque 1000 km de bouchons sur le territoire à midi. Ce n'est pas le record de 2019 qui est établi à 1340 km d'embouteillage. Mais on pourrait ne pas en être très loin d'ici la fin de la journée, car ça bouchonne énormément, vous l'avez dit. Surtout si vous avez choisi de rejoindre les plages de la Méditerranée et que vous passez par la vallée du Rhône. Les temps de trajet explosent depuis le sud de Lyon, près de 6 heures au lieu d'1h40 sur l'A7 pour rejoindre Orange. La raison principale, de fortes perturbations au niveau de Valence. Il vous est donc conseillé d'éviter le secteur en quittant l'A7 dès que possible à la sortie 9 de Vienne. Arrivé sur l'A49 à hauteur de Romans-sur-Isère, vous pourrez reprendre l'A7 au sud de Valence.
Alors, des difficultés, il y en a également de l'autre côté dans le sud-ouest.
Oui, totalement. Orléans, Tours et jusqu'à Bordeaux, vous roulez vraiment au ralenti sur l'ensemble de l'A10. Il y a des perturbations presque partout. Attention, vous enchaînez des coups de frein sur près de 35 km sur la fin de l'A10 jusqu'à Virsac. Et même en arrivant enfin à Bordeaux, vous ne serez même pas au bout de vos surprises. La rocade est très bouchée. Soyez prudents, on signale un accident impliquant 2 véhicules dans le sens intérieur de la rocade.
Alors, ils sont moins nombreux, mais on n'oublie pas ceux qui rentrent. Journée orange dans le sens des retours. Là aussi, des difficultés.
Oui, au blues du retour des vacances s'ajoutent les bouchons. Vous êtes toujours à l'arrêt complet du côté de Clermont-Ferrand pour remonter l'A71 vers Orléans. De plus en plus de monde sur le retour de l'A10 et l'A7 également. Et si vous rentrez de Bretagne vers Paris, il faudra faire preuve de patience, voire décaler un petit peu vos départs. C'est très lent du côté de Saint-Brieuc sur la Nationale 12, et ce, sur plus de 15 km.
Merci.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
Allez, on va maintenant sur l'une des nombreuses aires de repos sur lesquelles les vacanciers reprennent un peu de force ou font le plein. Bertrand Frachon, vous êtes sur l'A7 à Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme.
Oui, bonjour Philippe. Ici sur l'aire d'autoroute, c'est l'heure de la pause déjeuner. Sandwich sur le capot de la voiture pour beaucoup. Et plein d'essence, forcément, en faisant la queue à la station. Pas simple quand on tracte une énorme caravane comme Olivier qui descend en Ardèche.
La caravane fait 8 mètres et le camion 5 mètres, donc ça fait 13 mètres en tout.
Faut avoir l'habitude là.
Oui, bon, on le fait tous les étés, donc on y arrive.
Là, je vois que vous vous arrêtez à la station service quand on fait le plein d'un équipement pareil. C'est beaucoup d'essence?
Non, c'est un plein normal. On est à 60 litres de diesel. Il n'y a rien de spécial.
Et ça consomme beaucoup avec la caravane derrière, combien elle pèse?
La caravane 2 tonnes, donc oui, ça fait du 13 litres au 100 là, quand on roule comme ça. Ouais.
Donc on s'arrête souvent à la pompe sur la route?
Plus souvent qu'à l'habitude, oui.
Du plus gros au plus petit sur la route des vacances, Lionel, lui, a opté pour la moto. 900 km entre la région parisienne et Nice, bien plus pratique selon lui pour une journée noire.
Vu les embouteillages qu'il y a, je préfère... Et puis ce sera, à mon avis, de plus en plus qu'on aura des deux roues sur la route. Il faut s'arrêter tous les 100-150 km.
Alors l'avantage en moto, c'est qu'on se faufile de partout?
Tout à fait. Je viens d'esquiver 12 km de bouchons à peu près. Là. C'est vraiment très bien.
Ça fait plaisir de passer à travers?
Tout à fait. Ben, moi qui suis parisien, déjà je le fais toute l'année. Mais là, bon. Enfin bon, c'est pas non plus des choses à faire à grande vitesse. Il faut y aller gentiment. On remonte pas les fils comme ça très vite, quoi.
Voilà Philippe, après la pause casse-croûte, tout le monde reprend la route, doucement, vu l'état du trafic.
Merci Bertrand. Et puis on a une petite pensée pour ceux qui sont déjà sur le retour. Si vous avez choisi la moitié nord et l'Atlantique, on ne peut pas dire que vous avez été très gâté en juillet par la météo. En fait, les seuls chanceux, ce sont les vacanciers qui avaient opté pour le sud-est. Écoutez Valérie, tiens, elle était à Sainte-Maxime dans le Var et ce matin, elle rentrait vers Dijon.
Très bien, on était dans le sud, donc une semaine avec un petit peu de mistral début juillet. Et puis après, beau temps pendant 15 jours, donc un vrai régal, on va dire, de la plage, un peu de piscine, un peu de découverte. Et puis voilà, des vacances comme il faut.
C'est rentré toute bronzée.
Oui, heureusement. Enfin, heureusement, ça montre qu'il y a fait beau en tout cas, qu'il y a eu le soleil.
Voilà. On va rendre jaloux les collègues de bureau lundi.
On va dire ça comme ça. Mais eux, ils sont partis. Voilà, chacun son tour. Donc on va se croiser.
Donc pas d'embouteillage dans ce sens-là.
Non, ça roule bien là. Et puis nous, on va jusqu'à Dijon, donc il nous reste plus que 2 heures. Donc j'espère que, enfin 2h30. Donc j'espère que ça sera la même chose encore pour les 2h30 qui restent.
Voilà, bon courage à Valérie qui reprend le travail dès lundi. Depuis ce matin, vous l'avez sans doute entendu, cette sirène, c'est celle de l'alerte enlèvement. Un petit garçon de 8 ans a été enlevé par son père à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Ça s'est passé hier matin. Dewi, l'enfant, est de type européen. Il est atteint de surdité. Son père l'a enlevé dans un centre social où il avait le droit de lui rendre visite, mais de façon très encadrée. Ils ont pris la fuite, tous les deux, et leur voiture a été retrouvée abandonnée hier soir quelques kilomètres plus loin. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Le père du petit garçon est loin d'être un inconnu hein, pour les enquêteurs. Son profil d'ailleurs est assez inquiétant.
Oui, un homme connu pour vol, menace, infraction à la législation sur les stupéfiants et surtout infraction en lien avec la garde de son enfant. Ce père de famille avait interdiction de se trouver seul avec son fils. Dewi avait d'ailleurs été placé en famille d'accueil début juillet. Il avait en revanche le droit de lui rendre visite dans une structure spéciale, une association qui dépend des services sociaux à Lannion et toujours sous la surveillance d'un éducateur. C'est dans ce cadre qu'il l'a enlevé hier matin et les policiers craignent que ce père de famille ne soit dangereux pour son fils et pour lui-même, d'où cette alerte enlèvement déclenchée tôt ce matin. Les recherches se concentrent actuellement autour de Tréguier, à 20 km de Lannion. Un hélicoptère et des chiens renifleurs parcourent actuellement cette zone rurale où le père de Dewi pourrait avoir poursuivi sa fuite à pied avec lui.
Merci Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Combien seront-ils cet après-midi dans les rues? Les opposants à l'extension du pass sanitaire manifestent pour le troisième samedi consécutif. Ils étaient plus de 160 000 samedi dernier dans tout le pays. Cet après-midi, des rassemblements sont prévus dans plusieurs dizaines de grandes villes. À Paris, 3000 policiers mobilisés. Dès ce matin, plus de 3000 personnes ont défilé à Pau, plus de 2000 à Aix-en-Provence, 1500 à Narbonne et un petit millier à Foix, Périgueux ou encore à Figeac. Puis on l'a appris ce matin, la jeune femme gardien de la paix qui avait été victime d'un grave accident de trottinette mercredi à Paris est morte la nuit dernière. Elle se rendait en trottinette électrique à son travail au commissariat du 12e arrondissement lorsqu'elle a été percutée par une ambulance qui l'a projetée contre un bus. Elle n'avait que 30 ans. Il est 1h20 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal. On revient à cette journée faste pour les Français à Tokyo. 5 médailles.
RTL Midi, Philippe Robuchon. RTL Midi, Philippe Robuchon.
Autant la journée d'hier avait été dans l'ensemble décevante, autant celle d'aujourd'hui est prolifique. À Tokyo, les Français ont remporté 5 nouvelles médailles, 2 en planche à voile, je vous le disais, 1 en triathlon, 1 en rugby à 7 féminin et consécration pour le judo français, Isabelle Langer, il y a moins d'un quart d'heure, une médaille d'or pour l'équipe de France mixte, c'est absolument fabuleux.
Il faut mesurer la performance, Philippe. Battre le Japon, que dire humilier le Japon, 4-1 au final de cette épreuve mixte, disputée pour la première fois au JO, c'est un exploit incroyable. Parce qu'il est réalisé ici, au Nippon Budokan, dans le temple du judo. Depuis que cette compétition par équipe existe, depuis 2017, le Japon a remporté les 4 titres mondiaux. La France a terminé à la 2e place à 3 reprises. Et les Bleus s'étaient fait une promesse, l'emporter ici, aux Jeux Olympiques. Et bien c'est ce qu'ils viennent de faire dans une finale qu'ils ont dominée. Clarisse Agbegnénou a gagné sur Ippon, idem pour Axel Clerget qui a dû batailler près de 5 minutes et qui l'a emporté au Golden Score. Après la défaite de Romain Dicot, Teddy Riner a souffert et a dû batailler pour l'emporter contre Aaron Wolf. Et c'est Sarah Léonie Cizik, vous savez, celle qui avait tant pleuré après sa disqualification en finale des moins de 57 kilos, et bien elle a pris sa revanche en offrant la victoire aux Bleus. Teddy Riner s'est alors précipité sur le tatami pour la prendre dans ses bras et la soulever en l'air. Allez écoutez le champion.
Je ramène 2 titres à la maison, on bat le Japon chez eux, mais là je pense qu'ils ne vont pas s'en relever et nous on va être les plus heureux, on va profiter, mais c'est magnifique, c'est magique.
Je crois que c'est magique.
C'est magique.
Je crois que c'est le mot, c'est magique. Au début de la journée, je crois qu'on est rentré dedans tout doucement,
ouais.
On s'est fait des frayeurs, mais je crois que voilà, les équipes c'est les équipes, on doit compter les uns sur les autres et c'est ce qui s'est passé tout au long de la journée, donc grosse fierté. Je crois que le 6 majeur qu'on a aligné, quoi qu'il arrive demain, on va rester unis pour cette histoire. Première édition aux Jeux Olympiques à Tokyo, là où tout a commencé, et on a gagné contre le Japon. Qui aurait cru ?
Et on l'a fait. Et on l'a fait.
Et vous aurez bien sûr reconnu Clarisse Agbegnénou, notre championne olympique, et Teddy Riner au micro de nos confrères de France Télévisions. Elle est là, sa 3e médaille d'or au JO à Teddy Riner. Et dans quelques minutes, ils vont tous monter sur le podium, recevoir leur breloque et faire retentir la Marseillaise. Le judo tricolore a brillé pendant ces Jeux. 8 médailles, 2 en or, 3 en argent, 3 en bronze. On aura quand même une pensée pour Shirin Boukli, car elle est la seule des judokas tricolores à rentrer en France sans médaille. Elle n'a pas participé à cette épreuve mixte.
Merci Isabelle Langer. 8 médailles rien que pour le judo français. Franchement, ça mérite qu'on leur tire un grand coup de chapeau. L'une des autres médailles de la matinée pour nous Français, ça a été pour l'équipe de France féminine de rugby à 7, médaille d'argent. Les Bleus ont perdu 26-12. Il est vrai qu'elles étaient face à la Nouvelle-Zélande. Mine de rien, c'est la première médaille olympique pour le rugby français depuis 5 ans. Du coup, Nicolas Burnand, ben les Françaises ont bien fêté l'événement. Hein.
Je pense qu'il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a fait, du chemin parcouru. On est forcément déçus. C'était vraiment notre objectif. On a montré de belles valeurs. C'est les valeurs qu'on transporte depuis quelques temps.
Bon, il y a une petite erreur manifestement. C'est pas Nicolas Burnand en direct de Tokyo. Est-ce qu'il est là, Nicolas ? Allô ? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, vous savez ce qu'on va faire ?
Je suis là.
Vous êtes là, parfait. Alors, je le disais, les Françaises du rugby à 7 ont formidablement fêté cette médaille d'argent.
Oui, sur le podium, les tricolores se donnent la main, entament une hola lorsque le speaker prononce leur nom. Elles sautent en l'air, prennent la pose pour les photographes couchés sur le gazon, leur médaille autour du cou, puis applaudissent les Néo-Zélandaises lorsqu'elles réalisent leur haka de la victoire. Héroïque dans ce tournoi, la capitaine Fanny Horta et ses joueuses ne pensaient pas en arriver jusque-là. Elle est au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je pense qu'il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a fait, du chemin parcouru. On est forcément déçus. C'était vraiment notre objectif. On a montré de belles valeurs. C'est les valeurs qu'on transporte depuis quelques temps maintenant. J'espère qu'en tout cas, on leur aura donné encore plus envie de continuer, de poursuivre l'aventure avec nous. Ben voilà, vivre ces moments-là, c'est juste énorme.
Dans le stade, à ce moment précis, une autre joueuse, Anne-Cécile Siofani, 27 ans, n'aurait pas voulu être ailleurs tellement son aventure olympique perpétue la tradition familiale. Sa mère a pris part aux Jeux de Séoul pour le Cameroun au poids et au disque. Son père est finaliste au marteau à Los Angeles. Elle se dit heureuse d'avoir suivi leurs traces dans un sport différent et souhaite leur rendre hommage avec cette médaille.
Merci Nicolas Burnand en direct de Tokyo pour RTL. Bonjour Baptiste Durieux.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors on fait le point avec vous sur tout le reste, tout ce qu'il faut retenir de cette journée à Tokyo pour nous Français. Belle moisson de médailles.
Absolument, 6 médailles aujourd'hui. La dernière échéance, c'est maintenant avec les sabreuses Manon Brunet, Charlotte Lombard et Cécilia Berder qui affrontent la Russie en finale. Médaille d'or ou médaille d'argent assurée, les Françaises mènent, mais c'est pas terminé pour l'instant. Et puis sinon, la nuit a commencé avec la 14e médaille en bronze grâce au relais mixte de triathlon emmené notamment par Cassandre Beaugrand et Vincent Louis, la 15e médaille pour la planche à voile, Charline Picon, championne olympique en 2016 qu'on connaît bien, qui décroche cette fois la médaille d'argent, 16e médaille également pour Thomas Goyard, toujours en planche à voile, argent pour le Calédonien. Et puis dans les autres résultats également, il faut souligner la défaite de Novak Djokovic en tennis qui d'ailleurs a renoncé à la petite finale du double mixte. Effectivement, il est blessé, mais il vient de dire qu'il allait rebondir et on n'en doute pas, effectivement. Mauvaise nouvelle pour le handball féminin, les filles se sont inclinées 28 à 27 contre la Russie. Tout à l'heure, les basketteurs ont battu l'Iran 79 à 62, direction l'écart. En athlétisme, soulagement pour Renaud Lavinelli. Le perchiste, victime d'une entorse de la cheville il y a 3 semaines, se qualifie pour la finale. Natation, qualification de Florent Manodou pour la finale du 50 mètres. Déception en boxe, en revanche, Sofiane Oumia, qui est vice-champion olympique à Rio, perd dès les 8e. Et puis enfin, l'américaine Simone Biles est forfait pour les grandes finales de demain en saut et aux barres asymétriques. On parle de gym. Et pourquoi on en parle? Puisque c'est aussi un forfait qui profite à la française Mélanie de Jesus dos Santos, première remplaçante, qui est donc qualifiée pour la finale des barres. Ça fait 18 médailles en tout pour la France à l'issue de cette journée.
Un point ultra complet. Merci Baptiste Durieux.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
Pour tous les amoureux du zouk aux Antilles en particulier, c'est une véritable journée de deuil aujourd'hui. On a appris ce matin la mort de Jacob Desvarieux, l'un des fondateurs du groupe Kassav. Lui, c'était le guitariste, il avait 65 ans et il est mort des suites du Covid. Il est vrai qu'il avait des comorbidités puisqu'il avait été greffé d'un rein. En métropole, peut-être qu'on n'imagine pas la popularité des membres de Kassav, mais dans toutes les Antilles, ce sont de véritables stars. Valentin Boisset pour RTL a pu joindre tout à l'heure la chanteuse de Kassav, Jocelyne Berroir, évidemment effondrée.
Je crois qu'on est tous un peu abasourdis parce que on espérait, comme quand on tient à quelqu'un, on espérait qu'il s'en sorte. C'est comme être amputé d'un membre. Il faisait partie des créateurs du groupe avec le bassiste Georges Décimus et le frère de Georges qui était à l'origine de tout, Pierre-Édouard. C'était quelqu'un qui était extrêmement efficace, qui prenait en main en fait un peu toutes les choses du groupe au niveau organisationnel, avec évidemment notre manager. Mais bon, Jacob, c'était le grand frère, c'était le sage, c'était voilà. Et maintenant, il faut commencer à penser à demain. On a du mal à imaginer continuer sans lui. Voilà.
Voilà la tristesse de Jocelyne Berroir, la chanteuse du groupe Kassav, jointe ce matin par Valentin Boisset. Jacob Desvarieux, le guitariste de Kassav, avait donc 65 ans. Il est 1h10 sur RTL. Dans un instant, tout autre chose. On va parler des algues vertes, un fléau en Bretagne notamment. On va en parler avec le maire d'Ilion, dans les Côtes d'Armor.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
Renault. RTL Midi,
Philippe Robuchon.
Invité de RTL Midi, monsieur Michael Cosson. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le maire d'Ilion, commune des Côtes d'Armor, l'une des plus touchées par le phénomène des algues vertes. Le problème n'est pas nouveau, il dure depuis pas loin de 50 ans. Mais il a pris une telle ampleur que vous appelez aujourd'hui à l'aide, vous appelez au secours, vous demandez l'aide de l'État. C'est bien ça?
Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que les algues sont présentes depuis, fin des années 60. Et c'est vrai que le ramassage, lui, a lieu depuis 2009. Il faut savoir qu'avant 2009, personne n'en entendait parler, mais pourtant, elles étaient encore plus présentes, puisque pas ramassées. Et depuis 2009, il y a un ramassage qui s'effectue. Ça fait maintenant plus de 12 ans. Cependant, en fait, ce ramassage, et même les actions qu'on peut être menées en amont pour diminuer le taux de nitrate, ne permet pas aujourd'hui de maintenir des plages ouvertes, puisque j'ai été amené en 2017, en 2019, et à nouveau cette année, à fermer des sites qui, dès lors qu'il y a des échouages massifs, font que ce sont des sites qui présentent principalement des vasières et des zones rocheuses, oui, sur lesquelles les moyens ne permettent pas le ramassage.
C'est terrible, monsieur Cosson, de devoir fermer des plages en plein été.
C'est sûr que lorsque vous êtes le 21 juin, c'est à marquer le début de l'été. Et lorsque vous prenez un arrêté pour fermer une plage, parce que vous savez que d'un point de vue sanitaire, ça ne permet plus d'assurer la sécurité, c'est assez rageant et c'est vrai qu'on aimerait effectivement qu'on puisse tenir compte de cette situation. Il y a bien entendu des efforts à mener en amont qui ont déjà été menés, qui méritent encore d'être menés, mais en aval on ne doit pas considérer que fermer une plage est une solution. Et moi, ce que je réclame, c'est des moyens supplémentaires dans ce sens.
Alors, soyons concrets, justement. Quand vous demandez l'aide de l'État, ça consiste en quoi ?
Eh bien, si vous voulez, en fait, depuis 2009 qu'ont lieu les ramassages, on ramasse avec un tracteur et une remorque. On n'est pas dans les années 60, on est en 2021. Je considère qu'on peut employer des moyens autres dès lors qu'on a la volonté. Moi, ce que j'appelle, c'est justement, nous avons des ministères de la recherche, des ministères de l'industrie, des ministères qui peuvent justement s'occuper de ce problème et faire en sorte que, plutôt que ramasser lorsque ça s'échoue, qui pour moi est un constat d'échec, si on procédait de la même manière pour une marée noire, on créerait au scandale. Et pourtant, en fait, ça fait 10 ans qu'on agit de la même manière. C'est-à-dire qu'on ramasse ces algues dès lors qu'elles sont échouées, en sachant en plus pertinemment que sur des endroits tels que des vasières, des rochers, on pourra pas les ramasser. Et donc, on fait le constat que, puisqu'on peut pas les ramasser, au bout d'un moment, on ferme les plages et on attend la saison suivante pour justement que ça soit à nouveau accessible. Et moi, ce que je réclame, c'est que déjà qu'on agisse en mer pour que pas justement que des échouages aient lieu, qu'on fasse aussi davantage de recherches en termes d'innovation, et ensuite qu'on fasse en sorte que fermer une plage et avoir des échouages, c'est le dernier recours.
Merci Monsieur Cosson, Michael Cosson, maire d'Illion dans les Côtes d'Armor. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Et puis on vous souhaite évidemment bon courage pour la fin de la saison, même si deux de vos plages sont fermées à cause de ces algues vertes. Le reste de la région reste évidemment à découvrir. Et il y a d'autres plages qui ne sont pas touchées. Merci infiniment. Bonne journée.
98% des Côtes d'Armor sont bien évidemment accessibles.
Vous faites bien de le préciser. Merci monsieur. Bonne journée. Dans un instant, nos plus belles routes des vacances. On va sur la Nationale 10 avec Christophe Bourou.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
L'abus d'alcool.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
Nos plus belles routes des vacances. C'est l'un de vos rendez-vous de l'été sur RTL à 1h05 tous les midis. C'est avec Christophe Bourou qui nous emmène aujourd'hui sur la Nationale 10.
Christophe Bourou sur RTL. Nos plus belles routes de vacances.
Et c'est parti pour un périple de 765 km sur cette Nationale 10, en compagnie de Laurent Carré, professeur d'histoire, amoureux fou de cette route, au point de lui consacrer un livre. Avec lui, on va remonter le temps à bord de l'Ami 6, star de la route des vacances dans les années 60.
Contact et on tire sur le démarreur. Comme une horloge. Et les 27,5 chevaux de l'Ami 6 s'ébrouent en silence. Clignotant, on est parti.
La Nationale 10, c'est l'autre route légendaire des vacances avec la Nationale 7 qui, depuis Paris et avant l'autoroute, menait tout droit l'été vers les plages de l'Atlantique et bien sûr vers l'Espagne.
À la frontière franco-espagnole cette année, on a passé le cap des 11 millions de visiteurs.
Route qui, pour des milliers de Français, a le goût d'une véritable Madeleine de Proust sur quatre roues, celle des Trente Glorieuses où l'on partait en juillet et août, la voiture chargée de bon matin, comme se souvient Laurent.
C'était toute une expédition, on préparait la voiture 2 jours avant, on la chargeait savamment, on mettait la toile de tente à l'époque, les toiles de tente gigantesques en coton qui prenaient déjà la moitié du coffre. On partait tôt le matin, ce qui n'empêchait pas parfois d'être bloqué. Et puis il y a quelque chose qui était, je crois aujourd'hui, qui n'existe plus beaucoup, c'est que pour la plupart des gens qui quittaient leur domicile, les vacances commençaient au moment où on claquait la porte et au moment où la voiture démarrait. On savait très bien qu'on allait être plusieurs fois bloqué par les embouteillages, mais c'était les vacances. On allait en vacances à Royan, à Saintes, on était presque arrivés. Je me souviens, avec mon frère, on avait alors le fameux jeu de la voiture blanche ou la voiture rouge, ou au jeu de la deux chevaux vertes, on se pinçait, on n'a jamais su pourquoi.
Oui, car avant les tablettes, les smartphones et l'autoroute, il fallait tuer le temps, car la route était particulièrement longue depuis Paris, avec traversée de la Beauce, de la Touraine, de Poitiers et à travers la vitre, un paysage bordé de ces fameux platanes.
Alors les platanes ont été plantés pour marquer la route. Au XVIe siècle, lorsque le réseau des grandes routes royales se structure, on veut baliser la route pour ne pas avoir de litige avec les propriétaires, qui étaient souvent des seigneurs, et puis aussi pour pouvoir utiliser le bois, notamment à des fins de construction militaire, et notamment les châssis de canon.
très inspiré par la fameuse route 66 aux États-Unis. C'est sur la National 10 que se sont développés les tout premiers ancêtres des fast-foods.
Alors on est arrêté juste en face l'ancien resto-route de Chambray-les-Tours qui a ouvert en 1955 et c'est très clairement un diner américain où le but c'était de pouvoir se restaurer rapidement. Il fallait pas mettre en péril la sacro-sainte moyenne. C'était dans la grande époque des steaks à cheval, c'était les club sandwich, c'était le steak frites. Le but c'était d'aller vite.
Inspiration très américaine aussi pour les stations-service. Pour certaines de véritables œuvres d'art, il n'en reste qu'une, celle de Saint-Maur-les-Tours, qui d'ailleurs vient d'être classée.
C'est indéniablement la plus belle station des 765 km de l'ancienne National 10. Cette station qui a été ouverte en 1956, alors Madame Bernard, dont la famille a tenu la station, enfin le relais Charles Martel, parce que c'était ici le relais Charles Martel, de 66 jusqu'à la fermeture.
On avait des voitures sur les deux pistes là. On vendait plus de 5 millions de litres par an de carburant, qui était un record national.
Mais bien avant les stations-service, il existait les relais de poste et c'est sur ce tracé qu'ils sont nés sous l'impulsion de Louis XI jusqu'à leur apogée au XVIIIe siècle.
Alors nous sommes dans le bourg des Ormes, au nord de la Vienne, devant la superbe poste aux chevaux. C'est un relais de poste qui a ouvert en 1762, qui est un petit peu l'ancêtre des stations-service, puisque ici, on changeait de chevaux, on pouvait se restaurer, on pouvait même dormir. Alors au milieu du XVIIIe siècle, pour faire Paris-Tours, il fallait 5 jours, et pour faire Paris-Bordeaux, on mettait 15 jours.
Nos plus belles routes de vacances sur RTL.
Merci Christophe Bourou, il est pile